Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Culture Média, je l'ai dit, qui continue et qui commence cette heure avec, cette demi-heure, puisqu'il est 10h25, c'est un nouvel horaire, vous le savez, nous sommes désormais de 9h30 en direct à 11h. Je salue toutes les équipes qui travaillent avec nous et qui font un travail absolument merveilleux après Mathieu Béliard et les auditeurs qui a pris le tout début de notre tranche de 9h à 9h30. On démarre ce journal de la culture Hélène par le geste des cinémas UGC et Pathé Gaumont pendant cette période de coronavirus. Et au moment où je lance ça, je me rends compte que je ne vous ai même pas salué et je ne sais même pas où vous trouvez. Bonjour Hélène.
Bah oui.
Alors bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Écoutez, je suis comme hier dans mon salon, sur mon canapé.
D'accord. Alors je l'ai dit, le journal qui démarre par le geste des cinémas UGC et Pathé Gaumont pendant cette période de coronavirus.
Et oui, les cinémas sont fermés depuis le 14 mars. Alors certains se posaient la question du paiement de leur carte illimitée. Alors sachez que ces deux principaux réseaux de cinéma multiplex ont décidé de stopper les prélèvements automatiques pendant la pandémie. Pathé Gaumont a envoyé un mail à tous les abonnés Cinépass. Il détient 82 cinémas en France. Et les abonnés n'auront rien à débourser jusqu'à la réouverture des salles. Ça se fait automatiquement. Aucune démarche à effectuer. Et du côté du GC, pareil, pas de prélèvement. Et si vous avez réservé des séances après le 14 mars, vous serez remboursé.
Il y a un petit délai, je dis ça à nos auditeurs, il y a un petit délai, puisque justement Hélène est à distance et la technique fait des miracles pour que tout fonctionne. Après les annulations de concerts et de spectacles, les artistes ont décidé d'offrir des concerts en live sur Internet.
Et oui, notamment avec le hashtag Ensemble à la maison, mis en place par Facebook et Instagram. Plusieurs chanteurs ont décidé de maintenir le lien avec leur public. Le premier à avoir enflammé la toile, c'est Jean-Louis Aubert. Privé de tournée, il a fait un concert depuis son salon. Il a chanté pendant plus d'une heure et demie en direct, avec plus d'un million de vues.
Bien sûr, mon amour.
Alors ce n'est pas le seul, hein. Des surprises ont aussi été organisées par d'autres, notamment par Mathieu Chédide, qui depuis les réseaux sociaux a offert un moment de poésie en compagnie de Pierre Richard, en direct donc sur Internet. Ils alternaient poèmes et chansons. Écoutez.
Alignez vos troupes, en rang les désarmés, les violents et les doux partisans, et sceptiques et croyants en Dieu, les croyances en Dieu, nulle foi, nul credo, non su rompre le carnage. Qui vous distinguera, carcasse ou charogne, quand la triste poussière vous aura rattrapé? Oh. Ça jette un froid, non?
Alors si vous, Renaud, c'est très très drôle. D'accord. Si vous regardez la vidéo, vous pourrez voir également Pierre Richard danser quand M chante. Alors Christine and the Queens, elle a aussi donné un concert gratuit hier hein, sur les réseaux sociaux. Et puis Chris Martin, le chanteur de Coldplay, a passé une demi-heure au piano lundi soir. D'autres artistes rejoignent au fur et à mesure cette initiative du Ensemble à la maison, comme les humoristes, notamment Jarry. Et sachez que le château de Versailles commence à mettre des contenus inédits sur Facebook et Instagram.
La solidarité continue, Hélène, dans le monde de la culture, mais cette fois-ci avec une application gratuite qui propose des cours chantés.
Ah oui, alors Philippe, vous allez adorer. Les cours, vous savez, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Et donc, les cours à domicile s'organisent et les façons de le faire se multiplient. Alors, voici une idée. Avec une application, elle s'appelle StudyTrax. Elle existe depuis 2 ans. Elle aide habituellement pour aider les étudiants à réviser le bac et le brevet des collèges. Et en cette période de coronavirus, elle met gratuitement à disposition 1500 cours chantés pour aider professeurs et élèves, notamment des cours enregistrés par Joestar.
Bienvenue sur StudyTrax.
C'est Joestar.
Philosophie, la liberté, définition.
La liberté est le fait de disposer de sa personne et de ses biens.
Sans contrainte naturelle ou sociétale, sans aucun obstacle physique ou même moral. Le choix est partie intégrante de la liberté. L'humain est l'auteur et le maître de ses actes. Et sans contrainte naturelle ou sociétale, sans aucun obstacle physique ou même moral.
Et puis il y a aussi Soprano qui lui nous parle du théorème de Thalès, Philippe.
Mathématiques, Thalès. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs.
Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Soit 2 droit D, D prime, c'est quand en A. Soit 2 droit D, D prime, c'est quand en A. Soit B et M, 2 points de D distincts de A. Soit B et M, 2 points de D distincts de A.
C'est, extra-
voilà, c'est pas mal, non?
C'est extraordinaire. Et on recevait le mentaliste Fabien Olicard qui expliquait que justement, ça fait partie des moyens mnémotechniques pour se souvenir des cours. Par exemple, les faire rimer, les faire chanter. C'est une très, très, très belle initiative. Et même sans coronavirus, on devrait faire tout le temps. Et puis, on termine par une info qui risque de vous faire sourire. Un acteur américain vient de découvrir la pandémie du coronavirus.
Oui, ce n'est pas une blague, Philippe. Il s'agit de l'acteur Jared Leto, qui avait décidé de se retirer 12 jours dans le désert de Californie.
Ça me fait marrer,
pour
j'adore.
Méditer. Il a donc appris hier la présence de ce virus dans le monde. Il a posté sur Instagram ce message suivant. Waouh, nous étions totalement isolés, pas de téléphone, pas de moyens de communication. Nous n'avions pas idée de ce qu'il se passait en dehors du refuge, a-t-il donc déclaré sur Instagram. Nous sommes sortis hier dans un monde très différent, qui a été changé à jamais. C'est pour le moins hallucinant. Alors il affirme essayer de rattraper le cours des événements. Ce n'est pas le seul, puisque les candidats de l'émission Big Brother version allemande l'ont su hier soir. Ils étaient enfermés depuis le 6 février. Alors réaction des cris et des pleurs, évidemment. La surprise, comme vous vous en doutez, a été totale.
Et puis à propos de délai, merci et bravo aux équipes du CDM qui ont réparé en temps réel le petit délai qu'on entendait au début de votre intervention. Vraiment, merci les gars. Et merci à vous Hélène Manarino. Je vous dis à demain.
Merci à vous, à demain.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Jean-Marc Dumontet.
Bonjour Philippe.
Vous êtes quelqu'un qui compte énormément dans le théâtre en France. Vous êtes producteur, notamment Nicolas Canteloup, notre ami, on va le citer. Mais également, et c'est notre sujet du jour, directeur de pas moins de 6 salles de théâtre à Paris. Bobino, Le Point Virgule, Le Grand Point Virgule, Théâtre Antoine, je vais pas tous les donner. La première question que j'aurais vous poser tombe sous le sens. Plus aucun spectateur dans les théâtres. On ne sait pas jusqu'à quand va durer le processus de confinement. Dans quel état est le monde du théâtre? Déjà, avant d'aborder l'angle économique, à votre connaissance, est-ce qu'il y a des personnels, des acteurs, des directeurs, des comédiens qui sont touchés par le virus?
Écoutez, à ma connaissance, non, mais je n'ai pas recensé les uns et les autres, donc je n'en sais rien. Je ne vois pas pourquoi ils seraient immunisés, qu'il n'y en aurait aucun, qu'il doit obligatoirement y en avoir, mais non, je n'en connais pas.
Alors,
je connais pas.
Là, maintenant, la même question, mais du point de vue économique, évidemment, c'est le sujet qui nous intéresse et qui vous intéresse. Quel est l'état de la situation actuelle dans les théâtres?
Mais vous savez, on est comme tous les secteurs économiques dont l'activité est à l'arrêt. Je pense aussi aux restaurants, aux bars, enfin, à nombreux services qui sont à l'arrêt, donc plus de recettes. Donc évidemment, c'est des situations extrêmement contraignantes. Mais au fond, ça, tout le monde le sait, si vous voulez. Et moi, j'ai pas envie de pleurer sur notre sort. Aujourd'hui, le moment, il est à la mobilisation. Moi, je suis heureux parce que les mesures de confinement qui ont été annoncées lundi sont particulièrement suivies. Et donc, on s'est mis en marche pour lutter contre cette épidémie. Et c'était vraiment important. Et il y a une mobilisation de toute la société française. Nous, ensuite, en tant que chef d'entreprise, directeur de théâtre, il est évident que quand tout à coup, vous avez zéro recette, ça vous pose de nombreux problèmes. On le sait. C'est pas parce qu'on va annoncer la catastrophe que de toutes les façons, on va s'en sortir davantage. Moi, ce qui m'intéresse et ce que j'ai écouté à l'instant sur votre antenne, c'est toute la créativité qu'il y a, toute l'ingéniosité humaine qu'il y a, toutes les ressources qu'on a. Et ben, toutes ces ressources-là, il faudra qu'on les mobilise pour rebondir. Et on a la chance qu'il y a un grand plan quand même qui a été mis en place pour soutenir les entreprises. Donc les théâtres et les entreprises culturelles sont des entreprises comme les autres. Donc elles en bénéficieront et j'espère que ça nous aidera à passer le cap parce que de toutes les façons, il faudra rebondir. C'est ça qui est important. On sait qu'on est dans une lutte, on ne sait pas pour combien de temps on en a. On sait qu'on vaincra évidemment ce virus. On espère qu'il sera le moins fatal possible pour de très nombreux concitoyens. Et à partir de là, ben, chacun prendra sa responsabilité pour participer au rebond. Et vous savez, moi, ce qui est beau en ce moment, c'est cet élan de solidarité. Nous, par exemple, on a beaucoup de spectacles qui sont en tournée. Et j'avais mon directeur des tournées tout à l'heure, qui s'appelle Bilal Chegra, qui donc devait avoir 200 dates de tournée entre le mois de mars et le mois d'avril. On est en train d'essayer de le reporter et toutes les salles qui nous accueillent dans toute la France sont extrêmement ouvertes. Tout le monde cherche des solutions.
Oui.
Et je vois là de la solidarité. Un acteur comme Richard Berry, on avait le spectacle Plaidoirie en ce moment en tournée dans toute la France, il fait son maximum pour trouver de nouvelles dates, pour qu'on offre des possibilités de report. Donc tout le monde est dans cette dynamique positive. Et au fond, cet élan de solidarité, vous savez, hier je suis allé faire 3 courses sur les Champs-Élysées. Et j'ai été évidemment contrôlé, j'avais mon attestation, ce qui est une chose bien parce que ça montre que c'est un moment particulier de sortir, y compris pour faire des courses alimentaires. Et dans notre rapport avec les forces de l'ordre, eh bien, il y avait là aussi de la bienveillance. On fait nation tout à coup. On fait nation, donc notre situation, elle est évidemment très difficile, mais une fois qu'on l'a dit, ça sert à rien. À nous d'être créatifs, imaginatifs, et moi je vois toutes les équipes que j'ai dans mes théâtres, dans ma société de production, elles sont toutes tendues vers le rebond, et tout le monde veut en s'en sortir, et vous-même à la radio, Philippe, vous êtes en effectif restreint, chacun trouve des solutions. Oui. On est à un moment où tout le monde cherche et trouve des solutions. Alors, et ça, je trouve que c'est très heureux.
Alors la solution, il y en a une qui est là où le bas blesse évidemment les revenus. Comment ça se passe concrètement dans les salles? Qui est en chômage technique? Est-ce que les comédiens sont payés? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y avait un fonds de soutien d'urgence qui avait existé au moment des attentats? Est-ce qu'il pourrait être réactivé et mis en place à nouveau?
Si vous voulez, les attentats étaient absolument dramatiques, ignobles, nous violentaient moralement de façon incroyable parce que c'était notre démocratie qui était mise en cause et il y avait vraiment un ennemi, il y avait un ennemi terroriste. Là, on n'est pas dans la même configuration, évidemment, morale, psychologique. En revanche, la déflagration économique, elle est beaucoup plus forte. Elle est beaucoup plus forte parce qu'au moment des attentats, les salles continuaient à ouvrir, même si du côté évidemment des spectateurs, il y avait une appréhension.
Ouais.
Donc il y avait eu une certaine inertie, une certaine latence. Là, ça s'est totalement arrêté. Donc on n'est pas du tout dans le même schéma.
J'ai bien compris, comment ça va se passer économiquement pour les théâtres, pour qu'ils ne fassent pas faillite? J'avais retrouvé une déclaration de Stéphane Hillel, directeur de Grand Théâtre Parisien, qui dit « Si les spectacles ne reprennent pas en juin, ce sera catastrophique de devoir attendre la rentrée de septembre. »
Mais de toutes les façons, pour tous nos grands théâtres, Stéphane Hillel donc, dirige notamment le Théâtre de Paris, pour tous nos grands théâtres, c'est-à-dire des théâtres qui font 900 places ou 1000, enfin les grands théâtres, les petits, ils sont aussi extrêmement affectés. Mais les grands théâtres ne recommenceront pas avant septembre. Pourquoi? Parce que quand au Théâtre Antoine, à Bobineau, au Théâtre Libre, j'ai des programmations. Ces programmations, je les ai pensées 1 ou 2 ans à l'avance. Et surtout ces programmations, elles ont exigé un travail en amont, commercial, marketing, communication, 3 ou 4 mois à l'avance. Donc de toutes les façons, quand le confinement sera interrompu, on ne sait pas quand, fin avril peut-être, 15 avril, 30 avril, qu'importe, je n'ai pas le temps matériel de me retourner pour lancer une commercialisation.
Compris.
Donc on sait, nous les grands théâtres, qu'il faut qu'on réussisse le mois de septembre. Qu'on réussisse le mois de septembre.
Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Jean-Marc Dumontet, vous parlez d'initiative heureuse, je vais vous en faire entendre une. Ce sont 2 artistes suisses, Vincent Cuchol et Vincent Veillon. Ils ont fait une vidéo en réponse à une décision de Berne, la capitale de la Suisse, décision de fermer là-bas aussi les salles de spectacle.
Les gens regardent de travers tout ce qui tousse par terre et sortent des mouchoirs. Le monde est en train de paranoïer gentiment. Et c'est par sécurité que Berne a décidé d'en faire toute une histoire, en interdisant tous les trop grands rassemblements. On a pu faire notre concert mais sans public, sans public, sans public, en tentant de tenir la boutique avec nos chansonnettes. On a pu faire notre concert mais sans public, sans public, sans public, en disant des ça va pathétiques dans une salle vide sans acoustique.
J'adore le ça va pathétique, vidéo disponible sur YouTube que j'ai mis sur mon compte Twitter. Quelle autre initiative voudriez saluer, Jean-Marc Dumontet?
Oui, il sous-estime un peu la maladie en parlant de notre paranoïa. Hein,
oui. Oui, mais il y a le timing. Je vous rappelle que vous-même, vous disiez qu'il fallait continuer à aller au théâtre et que le président Macron, le 6 mars, est allé voir la pièce de Berléon et de Maison au Théâtre Antoine.
Totalement.
On peut aussi dire que le président était imprudent ce jour-là. Je rappelle, c'était le 6 mars.
C'est pas du tout une question d'imprudence, c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, de son endiguement, les consignes évoluaient. Et vous savez, dans une crise comme ça, il y aura toujours des gens pour dire « on en a fait trop », des gens pour dire « on n'en a pas fait assez ». Et il y a toujours les super spécialistes, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins et d'infectiologues dans ce pays. Il n'y en a pas assez dans les hôpitaux, mais il y en a trop peut-être sur les plateaux ou dans les médias qui s'improvisent infectiologues, épidémiologues ou médecins. Voilà, on aura tous un avis. Il est évident qu'il y a un comité scientifique. Ce comité scientifique, il a en permanence donné des avis qui étaient respectés. Et ensuite, la polémique fait partie du jeu.
On est d'accord. Et on salue toujours les super spécialistes qui vous donnent la météo de la veille. Merci beaucoup Jean-Marc Dumontet. Merci de votre enthousiasme et d'avoir été avec nous pour défendre le théâtre en direct sur Europe 1. Merci beaucoup. Mais on continue, on s'arrête pas.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Culture Média qui continue avec Margot Barallon. On va parler d'une série. Bonjour Margot.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes par téléphone de chez vous, j'imagine.
Exactement.
Vous n'êtes pas en train de faire les courses comme le racontait Jean-Marc Dumontet. Il le disait généralement, il ne le disait pas du tout sur vous. Forcément, Margot, avec la France confinée chez elle, on attend avec impatience votre conseil série de la semaine. Quoi choisir ?
Eh bien, je vais vous donner une raison de se réjouir au milieu d'une actualité un peu difficile. Une très bonne série est sortie hier sur la plateforme OCS. Ça s'appelle The Plot Against America, le complot contre l'Amérique en français. Alors, nous sommes en 1940, la Seconde Guerre mondiale fait rage en Europe. Pour l'instant, les États-Unis ne sont pas encore touchés. Les Américains sont plutôt préoccupés par l'élection présidentielle qui oppose le président sortant, Roosevelt, à Charles Lindbergh.
Lindbergh, l'aviateur ?
Exactement, le premier homme à avoir traversé l'Atlantique en avion. Alors tout le monde se souvient de son exploit, mais c'était aussi un homme antisémite, sympathisant du régime nazi. Et alors que Roosevelt poussait à l'époque pour que les États-Unis aident les alliés contre Hitler, eh bien Charles Lindbergh, il était lui isolationniste.
Si je me présente à l'élection présidentielle, c'est pour préserver la démocratie américaine, en empêchant l'Amérique de s'impliquer dans une nouvelle guerre mondiale. Votre choix est simple. Il n'est pas entre Charles Lindbergh et Franklin Delano Roosevelt, mais entre Lindbergh et la guerre.
Et ce discours anti-guerre, ça va avoir énormément de succès auprès des Américains et Lindbergh finit par être élu président des États-Unis.
Mais attendez, Margot, dans la vraie vie, c'est Roosevelt qui a été élu.
Et oui, et d'ailleurs dans la vraie vie, en fait, Lindbergh a même pas réussi à obtenir l'investiture des républicains. En fait, The Plot Against America, c'est ce qu'on appelle une uchronie. Ouais. Vous savez, quand on imagine une version alternative
Exactement.
De l'histoire.
Par exemple, si les Européens n'avaient pas découvert l'Amérique.
Exactement. Et donc là, les scénaristes racontent comment les États-Unis auraient pu sombrer dans le fascisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout est raconté du point de vue d'une famille juive du New Jersey et chaque personnage réagit différemment à ce qui se passe. Il y a les enfants qui sont toujours très admiratifs de Lindbergh. Pour eux, c'est toujours un héros. Il y a leur tante Evelyn qui pense que les propos antisémites finalement ne sont que des maladresses. Alors que le père Herman, il voit lui tout de suite le danger venir.
C'est comme ça que ça commence. Tout le monde est persuadé qu'ils pourront travailler avec lui, qu'ils pourront l'amadouer. C'est comme Hitler. Tout le monde est convaincu qu'il ne pense pas ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, ce que fait Lindbergh, c'est donner son approbation. C'est un héros au nom de Dieu, donc s'il le dit, tous les antisémites feront valoir leur bon droit. C'est l'aigle solitaire. Il a traversé l'océan en avion. Ce n'est pas un menteur, c'est un grand américain.
Les journaux et les animateurs radio lui mangent dans la main.
Oui, parce que c'est Lindbergh.
Alors, je sais pas vous, mais moi, un président américain qui tient des propos très virulents, dont on a longtemps dit qu'il exagérait et qu'il ne pensait pas vraiment ce qu'il disait, ça m'a rappelé quelqu'un.
Évidemment, Donald Trump.
Et oui, le créateur de la série, c'est David Simon, à qui on doit aussi la très célèbre The Wire sur écoute. Ouais. Et il n'a jamais caché ses opinions politiques. The Plot Against America, c'est une adaptation d'un roman de Philip Roth. Et ce qui est drôle, c'est qu'on avait proposé à David Simon de le porter à l'écran dès 2013. Mais à l'époque, il avait refusé parce qu'il trouvait que le propos sur le fascisme, c'était un peu daté, que de toute façon, les États-Unis étaient complètement à l'abri. Eh bien, il a changé d'avis après l'élection de Donald Trump.
Ça s'appelle donc The Plot Against America, le complot contre l'Amérique. C'est diffusé sur OCS.
Oui, et je rappelle qu'OCS, c'est une plateforme de streaming, mais aussi des chaînes de télé. Et si, en ce moment, vous êtes abonné à la télévision avec Orange, eh bien, vous avez droit gratuitement au bouquet OCS depuis hier. C'est un petit geste d'Orange en ces temps de confinement.
Voilà, un petit geste d'Orange et non pas un petit zeste d'Orange. Humour. Merci beaucoup, Margot Barallon.
Merci à vous.
À bientôt. Dans un instant, Laurent Mariotte, qui est dans sa cuisine, qui va nous donner des idées de recettes faciles à cuisiner alors qu'on est confiné à la maison, mais on a droit aux produits frais.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Une nouveauté maintenant dans Culture Média, une nouveauté mais pas un petit nouveau, c'est l'ami Laurent Mariotte. Bonjour Laurent.
Bonjour Philippe Vondel, bonjour tout le monde.
Quel plaisir de vous entendre dans Culture Média. Vous êtes où? Vous nous parlez d'où? De votre cuisine?
Eh ben, je suis dans ma cuisine, exactement, avec des produits de saison, un ordinateur et des livres autour.
Racontez pas tout, vous présentez sur Europe 1, évidemment, on vous connaît, la table des bons vivants, c'est le samedi de 11h à 12h30, et on peut vous voir sur TF1 avec Petit Plat en équilibre. Alors Laurent, les restaurants sont fermés, mais les produits de saison ne sont pas confinés, et justement, vous allez nous donner des idées de recettes, bonnes et surtout saines, à faire facilement chez soi, même les enfants vont pouvoir participer. Et à ceux qui se demanderaient pourquoi dans Culture Média, réponse simple, la gastronomie française est classée par l'UNESCO au rang de patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors Laurent, qu'est-ce que vous avez au menu aujourd'hui?
Ben vous avez raison de le rappeler, c'est vrai qu'on est le dernier pays d'Europe encore à passer autant de temps à table, Philippe. Donc il faut vraiment profiter de cette contrainte pour se retrouver en petit comité, en famille, à la maison. Et comme vous le dites, les produits de saison, eux, ne sont pas confinés. Et dans notre malheur, eh bien on a de la chance parce que le printemps arrive. Et avec le printemps, c'est la grande famille des légumes feuilles, des épinards, des salades vertes, de l'oseille qui va débarquer. Les asperges sont arrivées avec un mois d'avance.
Ah oui,
elles commencent à être abondantes. Et abordable en plus, ça y est, les prix sont en train de baisser, les radis sont là, donc il y a plein de choses à faire avec tous ces produits de saison, des recettes avec peu d'ingrédients, et il faut faire ce que j'appelle en ce moment de la semi-cuisine, c'est-à-dire combiner des produits frais et combiner des produits du placard. Alors faut arrêter le délire de faire des stocks de pâtes et de riz, il n'y a pas de pénurie alimentaire dans nos magasins, il n'y en aura pas, donc arrêtons de stocker bêtement, mais utilisons les conserves et les pâtes déjà qu'on a à la maison.
Alors en l'occurrence, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui Laurent?
Alors aujourd'hui, je peux vous proposer, par exemple, si vous voulez occuper les enfants et puis la famille, un cheesecake de radis avec du chèvre frais. C'est la saison du chèvre frais, par exemple. Vous allez faire une petite pâte à cheesecake qui est très simple, de la farine, du beurre, des cerneaux de noix. Vous mixez tout ça avec des œufs. Vous faites cuire au four 20 minutes. Et à côté, vous montez une crème liquide façon chantilly, ouais, avec de la ciboulette à l'intérieur, du chèvre frais et puis des radis que vous allez râper par-dessus tout ça. Et quand votre pâte est cuite, vous mettez cet appareil frais, de chèvre frais, de chantilly avec les radis râpés par-dessus. Vous laissez prendre au frais pendant 2 heures et au moment de servir, vous râpez quelques rondelles de radis par-dessus. C'est frais, c'est nourrissant et en plus, ça permet de faire une belle entrée à laquelle on peut inviter vraiment les enfants. Faut profiter de ce moment, ouais, pour que les enfants découvrent le plaisir de cuisiner en famille.
Ouais. Juste un mot Laurent, parce que vous dites que c'est facile à faire et si comme moi qui ne suis plus un enfant mais qui est incapable de monter une chantilly, on fait quoi? Il y a une alternative?
Alors il y a un petit truc pour la chantilly, effectivement, Philippe, faut avoir ce qu'on appelle le cul de poule bien froid, c'est-à-dire qu'il faut avoir un saladier bien froid, c'est comme ça qu'on appelle un saladier en cuisine.
Les enfants vous écoutent, Laurent.
Mais oui, mais je sais, mais c'est le mot de la cuisine, le cul de poule, ouais, c'est le saladier qu'on va mettre quand les gens ont un robot pâtissier chez eux, ils ont ce qu'on appelle une cuve en inox, c'est ça, ouais, le cul de poule, ils le mettent dans le congélateur, une crème liquide entière bien froide, un petit coup de fouet, et hop, c'est parti, là, en 5 minutes, vous avez une chantilly.
Quoi d'autre? Ça, c'est
alors
pour
là, c'est une chantilly. Ça, c'est pour l'entrée. On peut aussi faire des nuggets maison. Voilà, les enfants sont là. Plutôt que d'acheter des cochonneries de nuggets qui sont faits avec beaucoup de sucre et beaucoup d'additifs terribles et de cartilage et de peau de poulet à l'intérieur, on achète de bons filets de poulet fermiers en vente directe à la ferme parce qu'on peut continuer à aller, quand c'est à côté de chez soi, acheter directement au magasin paysan. Donc un bon poulet fermier qu'on va mixer avec du fromage blanc et quelques épices. Et tout simplement, ça, vous l'enrobez, cette pâte que vous allez obtenir avec une panure, c'est-à-dire un mélange de chapelure que vous faites tremper dans de l'œuf et vous faites frire ça tout simplement avec les enfants dans une poêle avec un petit peu d'huile dans le fond de la poêle. Attention à l'huile pour les enfants, bien entendu. Mais voilà, c'est aussi leur expliquer comment sont produits les produits manufacturés qu'on a trop tendance à manger. Parce que c'est vrai qu'on consomme encore beaucoup trop et plus qu'avant de produits ultra transformés et préparés. Donc profitons de ce moment pour redécouvrir les vertus du fait maison, quoi.
Mais tellement, moi j'ai vu un reportage sur les nuggets. nuggets, mais plus jamais, c'est même pas plus jamais j'y touche, c'est même plus jamais j'en regarde des nuggets industriels. Un dessert, pas de dessert, il y a les enfants. On termine pas un repas avec des enfants sans dessert, Laurent. Qu'est-ce que vous avez comme idée?
Aujourd'hui, j'ai prévu un atelier cookies, si vous voulez, sur mes réseaux sociaux, tout simplement avec, là, c'est simple, de la pâte de spéculoos et des morceaux de chocolat. Mais vous voyez, devant moi, j'ai des bananes un petit peu trop mûres. Eh bien, on peut faire une petite tatin de banane, tout simplement, avec un petit caramel, une pâte feuilletée qu'on sort du frigo ou du congélateur, et on fait une tatin de banane. Ça marche très bien. En attendant les fraises qui vont débarquer, mais là, on a les premières qui arrivent, mais elles sont encore trop chères, donc faut attendre encore pour les fraises.
Comment ça se passe, Laurent, pour les cultivateurs? Ils peuvent travailler dans leurs champs et les produits qui nous arrivent frais sont réellement des produits frais.
Absolument, j'avais des maraîchers hier au téléphone, pas plus tard que ce matin, encore un ami paysan, moi je suis à Paris mais qui est dans les Vosges là, et qui m'expliquait effectivement que lui continue à travailler, que les gens qui habitent à côté de chez lui peuvent venir acheter à la ferme. Attention, il n'est pas question de faire des kilomètres pour aller faire ses courses à la ferme, hein, il faut rester et respecter dans la zone de confinement bien entendu, mais il continue à produire et à travailler effectivement, et comme je vous le disais, c'est une belle saison avec une belle météo, donc il y a plein de produits qui arrivent, donc plus que jamais il faut manger des produits frais, oui.
Merci beaucoup Laurent Mariotte, c'était une première et c'est vraiment pas la dernière. On est très heureux de vous accueillir ici dans Culture Média. On vous retrouve, je pense, demain ou après-demain, on verra ça. Vous pouvez aller faire les courses maintenant d'ici là. Merci beaucoup Culture Média.
À votre dispo.
Mais évidemment, Culture Média, c'est presque terminé. Merci à tous et à toutes. Merci à l'équipe réduite. Merci à Jérémy également. Merci à Alexandre Omar en régie. On est, pour tout vous dire, on est trois ici à faire l'émission et toutes les équipes sont confinés et en télétravail avec nous. C'est vraiment un bonheur de faire cette émission, et y compris dans ces conditions très 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 particulières. Nous, on va se retrouver demain à 9h30 pour Culture Média avec Fanny Agostini, notre première invitée. Fanny Agostini, que vous entendez parler tous les jours, tous les matins, depuis sa ferme dans la matinale de Mathieu Belliard, sera pour la partie média. Et puis pour la partie culture, ce sera l'écrivain Jean-Marie Gouriot. Vous le connaissez, c'est l'auteur des Brèves de comptoir, des mythiques Brèves de comptoir. C'est le type qui va dans les cafés et qui note ce que raconte les types. De mémoire, je vous cite ma préférée, c'est un type qui explique à l'autre, ils sont au troquet, au zinc, et il dit, tu peux tout expliquer à un con, sauf qu'il est con. Et là, l'autre lui dit, eh ben là, je suis pas d'accord. Voilà, c'est Brèves de comptoir, c'est Jean-Marie Gouriot. Il sera demain avec nous, ça rigole en régie. Il sera demain avec nous dans l'émission, évidemment, Culture Média. À suivre, Anne Roumanoff avec nous pour une émission comme les autres. Évidemment, eux ne sont pas tout à fait affectés par le coronavirus. On est ravis de l'entendre. Et puis la suite, ça sera évidemment les infos. Très belle journée sur Europe 1.